France Inter. Ali Badou. Le 6-9.
Une page qui se tourne dans l'histoire de la France-Afrique. On en parle avec l'invité du grand entretien ce matin, l'une des figures majeures de la littérature francophone. Une vingtaine de romans, il est traduit dans le monde entier, lauréat du prix Renaudot. Et il enseigne à UCLA, l'université de Los Angeles. Ses cours au Collège de France, ses 8 leçons sur l'Afrique paraîtront chez Grasset à la rentrée. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'application mobile de France Inter. Alain Mabankou, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Président. Et bienvenue. Mais
toujours au pouvoir, comme on dit. Alors, donc, non, ça me fait très plaisir de venir ce matin ici.
Et c'est un plaisir de vous recevoir. Vous publiez avec l'écrivain Abdourahmane Ouaberi un dictionnaire enjoué des cultures africaines chez Fayard. Et c'est important au moment où le franc CFA va disparaître. C'est une monnaie qui va disparaître dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest au profit d'une nouvelle monnaie. Et c'était quelque chose qui était... non pas inévitable, mais demandé, exigé par beaucoup en Afrique depuis des décennies. Il faut prendre la mesure parce qu'on a du mal à comprendre ce que ça peut vouloir dire vu d'ici. Il faut prendre la mesure de ce que représente le franc CFA, là, Mabankou.
Il faut prendre la mesure de ce que représente le franc CFA. Et c'est pour cela que nous avions fait une entrée, d'ailleurs, le franc CFA dans notre dictionnaire des cultures, dictionnaire enjoué des cultures africaines avec Abdourahmane Ouaberi. Le franc CFA, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc c'est le franc des colonies françaises d'Afrique, créé en 1945, continuait à donner l'impression que c'était toujours la domination de la France économiquement qui se passait sur le continent africain. C'est vrai qu'en 1960, on avait essayé d'enrober cela au lieu de l'appeler le franc des colonies françaises d'Afrique. On a dit le franc de la communauté financière africaine, mais il restait que les réserves africaines étaient toujours ici, dans le trésor public français. Et puis, en même temps, chaque fois que nous autres, les Africains, faisions des dépenses, on avait presque une sorte d'impôt, entre guillemets, à payer à la France. Ces francs CFA étaient frappés ici, en France, à Clermont-Ferrand. Donc, comment voulez-vous qu'on ait une certaine indépendance donnée dans les années 60 si l'économie indirectement restait presque entre les mains de la France? Donc, c'est une page qui va se tourner, mais elle se tourne pas pratiquement puisque elle ne concerne que l'Afrique de l'Ouest.
Oui. Huit pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence, voilà, qui vont du Sénégal au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Niger, mais ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Et rappelez-vous, il y avait eu des clashs à cette époque-là. C'est au Sénégal que l'activiste Kémi Séba avait brûlé un billet de franc CFA et le président l'avait pratiquement condamné. Et
justement, il faut rappeler cette histoire, Alain Mabankou, parce qu'elle est importante et elle permet de comprendre justement ce que représentait ce symbole d'une servitude monétaire, comme l'a dit un grand économiste togolais. Dans certaines capitales africaines, l'exaspération, elle était telle vis-à-vis du franc CFA que donc il y avait Kémi Séba, qui était un acteur de la société civile africaine au Sénégal. En 2017, il brûle un billet de 5000 francs CFA devant les caméras et il est condamné par la justice sénégalaise pour destruction volontaire et publique d'un billet de banque et on le met en prison parce que c'est un geste insupportable.
Non seulement on le met en prison, mais il est extradé. On le renvoie ici en France. Donc c'est vrai que l'acte qu'il avait fait paraissait exagéré, mais dans les faits, nous voyons que les conséquences étaient les mêmes. La jeunesse africaine a compris tout de suite que malgré les indépendances, il restait cette mainmise de la France sur les politiques économiques africaines. Mais mieux encore...
C'est pour ça que c'est une question cruciale.
Crucial.
Qui est en train de se jouer
mais
aujourd'hui.
Ce qu'on n'a pas vu, c'est que cette suppression du franc CFA ne concernant que pour l'instant, en tout cas, l'Afrique de l'Ouest, mais il y a 6 autres pays de l'Afrique centrale, par exemple le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, qui, eux, vont continuer certainement à utiliser le franc CFA, alors même que c'est dans ces 6 pays qu'on retrouve les plus grandes dictatures de l'Afrique centrale, et c'est ces pays qui restent encore en relation étroite avec la France, avec des interventions sur place, des sponsors. On sponsorise pratiquement les dictatures qui sont là-bas. Donc moi je pense que l'extension va atteindre l'ensemble de l'Afrique et l'Afrique centrale. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest qui me pose en général des problèmes.
Oui.
Parce que l'Afrique de l'Ouest a suffisamment montré sa volonté d'être parfois démocratique. On passe pas au Sénégal, on vient pas au pouvoir par les armes. Alors que si vous prenez 85,5% des pays de l'Afrique centrale, l'arrivée au pouvoir s'est faite par des matraques, par des attaques, par des accointances avec Alpha Aquitaine, par des décisions bizarres qui cachent de l'argent dans des banques suisses, etc., etc. L'Afrique centrale, Monsieur Macron devrait discuter de cette histoire, parce que si l'Afrique centrale reste toujours dépendante de l'économie française, alors cette histoire de suppression du franc CFA ne serait que presque, offrir du shampoing à des chauves.
L'expression est belle, mais en l'occurrence, donc, c'est un symbole. C'est malgré tout une page qui se tourne. Est-ce que pour vous, c'est le signe qu'on est en train de sortir de ce qu'on appelle depuis des décennies la France-Afrique ?
On n'est pas encore pour l'instant très optimiste pour dire que la suppression d'une monnaie serait en quelque sorte la fin de la France-Afrique. On va remplacer ça par une monnaie qu'on dirait l'éco. On a dit que c'est à partir de 2020.
Ce sera le nom de cette nouvelle monnaie.
Voilà, mais on ne sait pas quand, comment ça va se faire. Parce que vous avez vu, lorsque nous sommes passés du franc français à l'euro, il y a eu des couacs, il a fallu une période de transition. Est-ce que nous sommes capables d'assumer cette transition? Est-ce qu'on va encore aller pleurer au pied de la France en disant « s'il vous plaît, aidez-nous dans la transmission parce que nous sommes encore des adolescents économiques, on voudrait avoir l'âge de puberté en matière économique ». Donc il faut savoir ce qu'on va demander ou ce qu'on va faire à cet instant-là. Et puis, la vraie question même de l'indépendance de l'Afrique,
oui,
en dehors du point du franc CFA, ce n'est pas forcément le changement du nom de la monnaie, c'est peut-être s'attaquer aux relations incestueuses qui sont encore là entre la France et les dictatures, les régimes bananiers, comme on dit, qui sont en Afrique.
Vous faites une liste d'ailleurs de ces dictateurs qui sont toujours en place dans ce dictionnaire enjoué des cultures africaines. On est surpris d'ailleurs de trouver une liste de dictateurs dans un dictionnaire, c'est vrai, qui a le sourire et qui met en avant les cultures africaines. Mais c'est vrai que la liste est longue, de Paul Biya, le président camerounais, à Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui le doyen, écrivez-vous, des dictateurs. En l'occurrence, cette histoire-là, elle ne change pas. Elle n'a pas encore commencé à changer pour vous, Alama Bankou.
Elle n'a pas encore commencé à changer parce que si vous voyez en général, regardez la géopolitique même du président de la République favorise ou peut-être s'intéresse beaucoup plus à l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on sent que le courant même de la liberté, le ballet citoyen, c'était du côté du Burkina Faso, les mouvements Yanamar, c'était du côté du Sénégal, tandis que dans l'Afrique centrale, on a l'impression des régimes où rien ne se passe, on peut matraquer, on peut bâillonner, tout se passe bien. Il s'agit d'attaquer le problème africain au cœur des ténèbres de la dictature africaine, c'est l'Afrique centrale.
Et Emmanuel Macron n'a pas commencer à s'attaquer à ce problème-là pour vous?
J'espère qu'il commencera à s'attaquer parce que pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est qu'on a reçu deux présidents de l'Afrique centrale qui sont les doyens des dictatures. Sassou Nguesso est passé à l'Élysée et Paul Biya est passé à l'Élysée. Et donc, ça se passe de commentaires.
Il a malgré tout évoqué une faute morale, le président de la République depuis Abidjan, une faute morale pour parler de la colonisation française en Afrique. Pour vous, c'est là aussi un geste que vous attendiez, qui vous semble, d'une certaine manière, une autre page d'histoire qu'on est en train de tourner ?
Non, la question coloniale, elle est déjà beaucoup traitée. C'est-à-dire, nous sommes dans les études africaines en avance par rapport à la politique française. Même ici en France, quand vous prenez les travaux des grands historiens comme les Pascal Blanchard, ils ont étendu la question de la colonisation. On sait ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire pour que l'histoire coloniale soit enseignée. On fait comme si on la découvre en matière de politique française, mais elle reste au cœur des débats et peut-être qu'il faut comprendre que cette colonisation, même si on pense qu'elle a cessé, mais elle a toujours peut-être survécu de manière un peu plus subtile et qu'il faut aller dans les profondeurs.
Aujourd'hui encore, alors que dans beaucoup de pays, la population est si jeune qu'elle n'a pas connu cette époque de la colonisation?
Ben oui, ben quand vous avez une monnaie déjà qui s'appelle le franc de quand même de des
CFA.
Colonies de l'Afrique,
oui.
Et qu'en même temps, chaque fois, on est obligé de demander à la France d'intervenir ou de faire quoi que ce soit, où est la liberté, où est l'indépendance. À un certain moment, si vous avez pris l'indépendance, vous devez être adulte, mener votre pays dans une certaine autonomie. Mais si cette indépendance africaine a des problèmes, c'est parce que aussi... Peut-être que l'affection que la France continue à avoir vis-à-vis de ses anciennes colonies est tellement forte que, eh bien, le divorce est difficile à consommer.
Quand vous dites affection, c'est ironique?
Ben, vous savez, dans la parole, on ne peut pas mettre des guillemets ou des italiques. Mais la colonisation française était à la fois une colonisation économique et une colonisation affective. La France était tellement empressée de pouvoir, servir la langue de Voltaire, la culture, le camembert, le vin, etc., nous donner, presque faire de nous des objets de la culture française, qu'on avait oublié que nous avions personnellement des âmes et que nous avions aussi des ancêtres et que dans notre tête bouillonnait une multitude de langues et de cultures. Parce que l'Afrique, c'est un continent vraiment de culture.
Évidemment, il y a malgré tout un sentiment, une opinion publique anti-française qui s'exprime. Le président de la République, là aussi, était à Abidjan et il a dénoncé des manifestations hostiles à la présence française qui s'exprime dans plusieurs pays du Sahel et notamment évidemment la présence militaire française pour lutter contre les djihadistes dans cette grande région du monde. Vous comprenez cette hostilité ou ce sentiment qui s'exprime dans des manifestations contre la France?
Non, moi je ne peux pas supporter une certaine... comment je pourrais l'appeler, francophobie ou quoi. Non, il ne s'agit pas d'être, de manifester une certaine acrimonie à l'égard de la France. Il s'agit de discuter dans ce sens. Parce que, à sa décharge aussi, hein, parce que, bon, je peux accuser, mais je peux aussi décharger. À sa décharge, quand il y a un conflit en Afrique, si la France n'intervient pas, les Africains disent « Mais que fait la France ?» Si elle intervient, on dit « Le colon est intervenu !» Donc, la France se trouve
c'est
toujours...
insoluble.
La France se trouve dans une situation délicate où vraiment il faut une vraie discussion entre ses anciennes colonies, avec les intellectuels qui ressortent de ces anciennes colonies, pour un peu décortiquer ou décomposer nos rapports.
Mais sinon... dans quel cadre est-ce que ça peut se faire à la Mabrokou? Il n'existe pas de parlement où on pourrait justement avoir ce type d'échange. Il y a les livres, par exemple, ce que vous faites, vous, comme romancier, il y a les conférences que vous avez données au Collège de France, par exemple, ces leçons sur l'Afrique.
Oui.
C'est une manière d'essayer d'installer ce dialogue-là.
C'est une manière, quand je publie un livre comme « Oui, leçons sur l'Afrique », c'est aussi une manière de faire de la pédagogie sur l'Afrique. Mais écoutez, on a un espace pour parler de nos relations. Cet espace s'appelle la francophonie.
Oui.
Et là encore, vous connaissez mes positions. Vous savez que la francophonie est polluée parce que nous allons déjà en terrain miné où les dictateurs ont plus de voix que les démocrates.
Vous aviez d'ailleurs écrit une lettre ouverte au président de la République pour l'interpeller sur la question de la francophonie, en faire autre chose qu'une structure vide. Mais malheureusement, c'est aussi la francophonie quelque chose qui peut être perçu comme la continuation de la politique étrangère de la France.
Oui, c'est des sentiments...
C'est difficile de s'en libérer.
Oui, c'est des éléments que j'avais exprimés auprès du président de la République, dont je félicite la capacité d'écoute et peut-être ce que je voulais lui rappeler, que nous sommes de cette génération. Quand je vois un Français de ma génération, je ne le mets pas comptable de la situation coloniale qui s'est passée avant, parce que ce n'est pas lui qui était là. Mais nous pouvons changer les choses ensemble en écoutant ce qui se fait du côté des Africains dans la pensée de la nouvelle Afrique et aussi du côté des Français de la nouvelle génération. Nous avons une fraternité entre des créateurs. Je vais dire, mon amitié, qu'elle soit avec Fouinkinos ou Serge Joncour, dépasse le cadre de « tu m'as colonisé, tes parents m'ont colonisé ». Nous n'avons pas ces débats. Nous avons des débats sur comment faire que la langue française représente la variété des peuples qui la parlent, qui l'utilisent. On n'est pas là à se dire « bon, écoute, je vais prendre ceci, tu vas travailler mon pétrole ». Donc la génération du président Macron doit être une génération qui décortique tous les problèmes. La monnaie, c'est vrai, on y en parle. Parlons de la dictature et parlons de ça clairement. Et quand on reçoit un dictateur, il faut le dire. Parce que si vous recevez Sassou Nguesso et Paul Biya, alors recevez aussi Kim Jong-un.
Tant qu'à faire.
Voilà.
On va justement donner maintenant la parole aux auditeurs de France Inter qui sont nombreux au standard. Première question. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter.
Merci de m'accueillir. Monsieur Alain Lamankou, que pensez-vous de l'influence chinoise de plus en plus importante en Afrique ? Dans votre présentation, pas un mot sur ce pays qui fait quand même certaines preuves de dureté. Regardez Hong Kong. Est-ce que ça va être le nouvel amour de l'Afrique ?
Nous allons justement, nous allions en parler de la Chine.
Oui, mais moi je pense aussi que en France, on a tendance à découvrir que c'est maintenant que les Chinois sont en Afrique. Moi, je suis né en 1966, quand j'allais à l'école
au Congo-Brazzaville,
j'allais dans une école à Pointe-Noire construite par les Chinois. Je ne savais même pas que c'était les Chinois qui étaient déjà là.
Déjà en 1966.
Donc, le barrage de Mukukulu qui donne de l'électricité aussi bien dans le sud du Congo que jusque du côté de Kinshasa a été construit par des Chinois. Les Chinois sont là depuis longtemps. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas rentrer dans une certaine querelle entre la France, qui était l'ancienne puissance coloniale, et la Chine, qui agit aussi avec des méthodes presque de prédation. La France se sent un peu cocufiée colonialement par la Chine, et c'est pas à moi de venir discuter de leur guerre, peut-être, de territoire. Je pense que nous n'avons pas non plus à accepter cette situation où la Chine est effectivement est en train de s'emparer de la plupart des matières premières qui sont les Chinois ne sont pas venus là en colonisant directement, hein. Ils sont appelés aussi par ces dirigeants qui sont là. Chez moi, beaucoup de matières premières, une partie du pétrole a été vendue aux Chinois par les dirigeants qui sont là et qui pensent qu'ils sont là éternellement.
Question Alain Baboncou de Sabine sur l'application France Inter. Elle vous demande pourquoi est-ce qu'on met fin au franc CFA et pourquoi est-ce que s'il est si difficile que la France rende des œuvres aux pays d'Afrique qui en sont les véritables propriétaires. Et je signale d'ailleurs que la France va restituer au Bénin, par exemple, 26 œuvres d'art qui va se faire dans le courant de l'année 2020, peut-être au début de l'année 2021, a indiqué le ministre de la Culture, Franck Riester.
Je suis d'accord. D'ailleurs, la restitution des arts, parmi les personnages principaux qui travaillent dessus, notamment Félouine Sarr, mon ami sénégalais, qui travaille depuis fort longtemps. Ça fait partie aussi peut-être de la trace qui va expliquer que l'Afrique, c'était pas le continent des ténèbres, que ces statuettes qui étaient parfois la risée à gauche et à droite avaient inspiré des grands mouvements en Europe, comme le surréalisme, que les Picasso était allé picorer à l'intérieur. Et donc, nous sommes dans un élan où il sera de plus en plus difficile pour beaucoup de pouvoir masquer un peu la présence sournoise de la France dans certaines combines qui se passent en Afrique actuellement.
Vous y êtes favorable à la restitution d'œuvres d'art qui sont dans les musées français, dans des collections françaises au pays d'origine?
À condition qu'on commence déjà par savoir comment on va les restituer, où on va les placer, est-ce que on a bien fait les structures pour pouvoir protéger ces œuvres? Parce que pendant longtemps, nous autres les Africains, pourquoi on n'a pas respecté notre art? On n'a jamais considéré, on n'a jamais pris un grand intérêt à nos œuvres artistiques. Donc il faut préparer les structures, il faut étendre cela. Vous avez compris que là encore, on ne parle que de l'Afrique de l'Ouest, Bénin. Donc, est-ce que la politique africaine du président Macron est une politique ouest-africaine ou bien c'est une politique dans l'ensemble des territoires des anciens territoires qui étaient français? Donc, étendons le discours. Je veux qu'on
quitte
parle...
Quitte à vider le musée du Quai Branly, par exemple.
Ben oui, ben écoutez, si on a nos structures, nos endroits pour le faire, pourquoi pas? Si c'est notre bien, eh ben, vaut mieux que vous veniez le visiter aussi en Afrique. Ça fera quand même quelque chose de bien.
Bonjour Christian et bienvenue sur France Inter. Votre question à Alain Mabankou.
Oui, bonjour Monsieur Mabankou. Écoutez, ben, vous avez commencé votre intervention par l'historique du franc CFA, donc le nom date de 1945.
Oui.
Ma question porte sur ces noms chargés d'histoire. Et je pense à un établissement prestigieux français où il y a d'ailleurs des collections qui pourraient concerner la question précédente, c'est le Musée de l'Homme,
oui.
Créé en 1937. Mais voilà ma question. Le Musée de l'Homme, comment vous faites évoluer des noms chargés d'histoire? Par exemple, où sont les femmes au Musée de l'Homme aujourd'hui? Vous voyez? Voilà, merci.
Ah oui, Alain Mabroukou.
Oui, oui, vous avez raison. La question même de la présence de la femme est générale. Regardez, en 1956, quand il y avait eu le premier congrès des écrivains noirs, écrivains artistes noirs, donc ils mélangeaient écriture, peinture, tout ce qu'il y avait. Il y avait plus de 100 personnes sur la photo et il y avait une seule femme, et cette femme n'était pas considérée comme créatrice, elle était venue là comme la femme de Price Mars, un écrivain haïtien, alors même que le mouvement de la négritude, je le répète, était un mouvement gravement et grandement féminin. La présence des femmes comme Joséphine Baker, la présence des femmes comme Nancy Cunard, la présence des femmes comme Christiane Yandé Diop, la directrice des éditions Présence africaine, ou de Suzanne Césaire, la femme de Césaire, ou de Paulette Nardar, qui tenait déjà un salon littéraire ici dans le sud de la France. Et c'est ces femmes qui ont montré aux grands écrivains comme Senghor, Césaire, Damas, les écrivains noirs américains qui fuyaient l'Amérique à cause de la ségrégation raciale. Et ces écrivains, c'était qui? Ben, c'était James Baldwin, c'était Langston Hughes, c'était Richard White. Donc les femmes dans l'histoire même africaine sont bizarrement absentes, et ça c'est grave. Lorsque j'avais fait le cours...
Elles ne sont pas absentes de vos romans?
Non, elles ne sont pas absentes de mes romans, et c'est pour ça même elles sont dans une des leçons qui se trouve dans ce livre où je
rends... C'est 8 leçons sur l'Afrique, voilà. Les leçons que vous avez données au Collège de France.
Voilà, donc il y a des femmes à qui je rends hommage parce qu'elles ont été là, Munde Rivel, par exemple, du côté des Antilles. C'était des femmes fortes qui ont inspiré les plus grands mouvements de la négritude.
Vous parlez de la négritude, est-ce que c'est un mouvement du passé? Ou est-ce que ça peut avoir encore un sens aujourd'hui et pour l'avenir?
Ça a un sens aujourd'hui, à condition que ça ne soit pas l'enfermement dans son identité à 100%, sans pour autant s'ouvrir. Moi, j'aime la négritude quand il y a beaucoup de fenêtres autour où on peut regarder le monde. La négritude, dans sa constitution, n'était pas seulement faite par des Noirs. Regardez la place de Jean-Paul Sartre qui avait fait la préface au livre, au recueil de Léopold Sédar Senghor, l'anthologie nègre et malgache à cette époque-là. Cette préface qui est intitulée de Jean-Paul Sartre, Orphée Noir, est peut-être la plus grande définition de la négritude, et elle a été faite par un Blanc philosophe de cette époque qui nous a épaulés. Camus était là, Michel Léris était là, j'ai cité Nancy Cunard. Donc la négritude, c'est vrai, c'est le monde noir, mais le monde noir n'existe que quand nous lisons ensemble avec le monde blanc aussi.
C'est assez amusant d'ailleurs de vous voir définir le mot européen dans ce dictionnaire enjoué des cultures africaines. Définition dans ce dictionnaire, est européenne toute personne blanche non africaine.
Voilà.
C'est une belle manière de retourner la perspective.
Voilà, Mais c'est généralement c'est comme ça qu'on définissait à l'intérieur du Larousse, alors qu'aujourd'hui l'Europe ne se définit plus par rapport à la couleur. L'Europe se définit par rapport à l'idée qu'on se fait de cet espace, aux cultures qu'on voudrait embrasser, et au demeurant, la photographie de l'Europe n'est plus en noir et blanc, elle est en couleur.
Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde.
Voilà.
C'est une citation, justement, qu'on trouve dans ce dictionnaire d'Amadou Empaté Ba. Merci infiniment, Alain Mabroukou, d'avoir été l'invité de France Inter, le dictionnaire enjoué des cultures africaines. C'est chez Fayard. Et vos 8 leçons sur l'Afrique, les leçons que vous avez données au Collège de France, sont publiées chez Grasset. Vous repartez aux États-Unis bientôt. C'est là où vous enseignez, c'est là où vous vivez.
Voilà, tout à fait. Je repars bientôt enseigner la littérature en langue française.
Alors, bon voyage et bonne fête, Alain Mabroukou.
Merci.